sommes sur Allegre FM 93.1 dans La vie est un roman et je vais passer la parole à notre chroniqueur musique Frédéric Gournay, auteur de Métaphysique du rock, pour nous présenter notre invité du jour. À vous, monsieur Gournay.
Merci Yves. Oui, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Franck Medioni. Alors Franck Medioni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, homme de radio, écrivain. Vous êtes l'auteur de biographies remarquées de John Coltrane, de Miles Davis, de Thelonious Monk, de Jimi Hendrix, entre autres. Et aujourd'hui, vous venez de nous parler d'un livre qui s'intitule « Les mots de la musique » paru chez Fayard, ouvrage de plus de 700 pages, où vous avez demandé à 222 auteurs de parler, dans un précis d'admiration, de leurs musiciens préférés, qu'ils proviennent du jazz, du classique, de la musique contemporaine, des musiques du monde, du rock, du rap, etc. Avant de parler de ce livre, j'aimerais évoquer avec vous le fait que vous avez commencé à Allegre FM.
Absolument, je suis un enfant d'Allegre FM. Ça se passait au siècle dernier, dans mon souvenir, en 1980.
Au millénaire précédent.
Exactement. En 1993, j'animais une émission de jazz qui avait pour titre Hotspot. Ça a été vraiment une école à la fois du jazz, parce que j'ai rencontré chaque semaine un musicien. J'ai des souvenirs avec Michel Petrucciani qui était venu à mon émission. J'ai des souvenirs avec Daniel Humer, avec de nombreux musiciens. Et puis ça a été aussi pour moi une école de la radio, puisque c'est à Allegre FM que j'ai fait mes premiers pas radiophoniques parisiens.
D'accord. Donc ce livre, 222 musiciens, dont doivent parler 222 écrivains, comment une telle idée vous est-elle venue ?
Je m'intéresse au rapport entre les mots et les sons, les mots et la musique depuis un certain temps. Je creuse un peu ce sillon, ce micro-sillon. Il y a 6 mois, j'ai publié aux éditions du Castor Astral avec l'ami poète Tom Buron une anthologie, Le nom du son, une anthologie jazz et poésie, donc qui réunit 109 poètes du monde entier qui sont agis ou qui agissent en jazz dans leur pratique poétique. Et puis il y a toujours cette question, qu'est-ce qu'on fait de ce son, des musiques qui nous pétrissent, avec lesquelles on vit quand même souvent au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette musique ? Qu'est-ce qu'on en fait après, quand on est journaliste, quand on est écrivain ? Donc, je m'intéresse aussi à ce rapport jazz et littérature. Il y a eu une anthologie, il y a quelque temps, au Mercure de France, Le goût du jazz, qui était une anthologie jazz et poésie. Donc, il y a eu cette idée, avec les mots de la musique, de demander à des écrivains. Donc, il y a des écritures assez multiples, que ce soit des romanciers, des poètes, des journalistes, et même, ce qui est assez intéressant, des musiciens. Chacun s'est prêté au jeu, il y avait une contrainte de longueur, chacun s'est prêté au jeu avec beaucoup de gourmandise, beaucoup de liberté. J'avais peur des moments de bravoure, que chacun montre son beau stylo, sa belle plume, qu'il fasse un peu qui fasse le beau.
Ou de montrer que c'est lui c'est le plus grand fan, il s'y connaît le mieux.
Oui, voilà. C'est ça, qui la ramène un peu, on va dire. Et ce que j'aime, vous avez cité cette expression-là, ce sont des précis, des petits précis d'admiration. Donc l'idée, c'était qu'il y ait une vraie adéquation entre l'auteur et le sujet. Hein, que ce soit Bob Dylan, Schoenberg ou Alifar Katouré. Et je pense avoir souvent trouvé les bonnes personnes et chacun a vraiment adhéré et a joué le jeu.
Ouais. Alors l'ouvrage, de par sa taille et son exigence, prend des allures d'encyclopédie transversale, hein, de constellation musicale originale, où les artistes, quels qu'ils soient ou quel que soit leur genre, sont mis côte à côte, sans souci de hiérarchie autre qu'alphabétique. Ce qui donne des télescopages surprenants, des voisinages inattendus. Alors, est-ce que c'était conçu dès le départ, comme ça, c'était délibéré ?
J'aime beaucoup cette idée de livre constellation, et effectivement, il n'y a pas d'hiérarchie. Moi, je ne fais pas d'hiérarchie aussi bien en termes humains qu'en termes musical, pourquoi Schoenberg serait-il supérieur à Bob Marley ou Bob Marley supérieur à Beethoven. Donc l'idée, c'était un livre d'auteur. Le prisme, c'est vraiment l'écriture, c'est la subjectivité. Donc à chacun de porter un regard et de déployer une écriture par rapport à un musicien. Ce qui fait que dans le livre, c'est par ordre alphabétique. Ça commence avec Claude Abromont qui a écrit un texte sur Arnold Schoenberg. Et ensuite, ça défile par ordre alphabétique. Et à la fin du livre, il y a un double index. Un index par auteur et un index par musicien. J'aime l'idée de mosaïque, de constellation, et c'est pas une encyclopédie, puisque forcément, il aurait fallu quoi ? Il aurait fallu 10 tomes. Il y a seulement un tome qui fait quand même 760 pages.
On va dire anthologie, alors.
On va dire plutôt une anthologie, parce que c'est pas exhaustif. Hein. Mm-hmm. Il y a forcément plein de trous. Il y a des musiciens importants qui ne se trouvent pas dans le livre. Après, j'ai eu le souci, je l'avoue, je cherchais les auteurs, mais je cherchais aussi tel ou tel auteur qui était capable d'écrire sur... je cherchais un auteur, il y a un musicien qui me fascine, qui est un chanteur du Kawali, Nusrat Fateh Ali Khan. J'ai fait appel à un auteur qui était capable d'en parler, Amalia Rodriguez et Véronique Mortaigne, qui est critique au Monde. A écrit un joli livre sur Amalia. Donc c'est allé dans les deux sens. À la fois, je demandais à des auteurs quels étaient leur goût, leur envie. Et puis, dans l'autre sens, je cherchais aussi des auteurs pour tel ou tel musicien. Ça aurait été dommage, c'est sur le XXe siècle, hein, c'est un livre sur le XXe siècle, ça aurait été dommage qu'il n'y ait pas... Bob Marley, Mick Jagger, Bob Dylan et Jimi Hendrix.
Alors la part belle est faite au jazz, hein, qui est votre musique de prédilection, on peut le dire. Hein. Alors, Franck Midioni, comment vous êtes tombé dans le jazz ? Est-ce qu'il y avait du jazz chez les Midioni ?
Alors chez les Midioni, il n'y avait pas de jazz, il n'y avait quasiment pas de musique. Mm-hmm. Et la musique qui existait chez les Midioni, c'était durant l'été, et ça va peut-être vous surprendre, c'était Enrico Macias. Donc je suis passé d'Enrico Macias à Cecil Taylor et Ornette Coleman. Comment ? C'est une bonne question. C'est la radio, une fois de plus, qui a agi. C'est la radio du service public, c'est France Musique, c'est France Inter. J'avais 14-15 ans, j'ai écouté la radio. Puis il y a eu aussi une rencontre assez forte dans mon souvenir. Je me trouvais dans la grande rue de Sens, dans Lyon, Bourgogne, là où je suis né il y a quelques années. Et je me trouve aux prises uniques. J'achète des disques. Alors à l'époque, j'achetais Police, j'achetais un peu Supertramp, j'ai écouté quoi ?
Alors c'était Regatta de Blanc, Crime of the Century,
oui,
des choses comme ça.
Mm-hmm. Et puis après, il y a eu le choc London Calling, les Clash a été très fort. Et je me retrouve au supermarché devant un album très étonnant. On voit un bonhomme, c'était le CD, hein, donc c'est après 83, le CD c'est 83. On voit un bonhomme dans un petit chariot, un type assez sympathique, mais étonnant, avec une barbichette. Et ce bonhomme, c'était Terence Monk. Ce disque, c'était Monk's Music. Et à partir de là, ça a été comme un sésame, puisque ça a ouvert les champs du possible, du jazz, parce qu'il y avait Monk, qui a été très marquant pour moi. Et sur ce disque, alors il n'est pas crédité, étonnamment, sur la pochette, il y avait un certain John Coltrane. Et puis à partir de là, j'écoutais Coltrane, et puis après Coltrane, Miles Davis, et puis après Miles Davis, Charlie Parker. Et après, toute l'arborescence du jazz se crée. Et puis après, il y a le free jazz, et puis avant, il y a quand même Duke Ellington et Jimmy Lunsford. Et c'est comme ça que j'ai plongé dans le bain du jazz.
Question un peu difficile. Comment définiriez-vous le jazz ? Quelle est son essence ? C'est quoi ? C'est le jeu, l'improvisation, le live ?
Le jazz, c'est les sources noires américaines. N'oublions pas d'où vient cette musique, des chaînes de la haine des blancs américains. Max Roach, batteur, a dit sans racisme, sans haine, pas de jazz. Ça vient de là, avec les sources que sont le gospel et aussi, surtout, le blues. Ça vient de là, donc il y a cette source, le blues, et puis après, oui, l'essence, c'est l'improvisation, puisque c'est une musique de l'oralité, de l'instantanéité, de l'instant. Moi, il y a la musique écrite, il y a la musique occidentale, européenne, Beethoven, Bach... Et puis il y a le jazz qui est quand même qui fait partie du socle de l'arborescence importante des musiques américaines. Hein. J'ai tendance à dire sous forme de boutade que le rock est une forme de jazz abattardi, mais pour dire que le jazz c'est la base, le socle. Et oui, c'est et l'improvisation avant tout. C'est là que ça se joue. C'est là que un musicien déploie ses ailes. Il y a deux choses. Pour moi, quand j'écoute un musicien, peut-être trois choses même. Il y a le son qui est la patte sonore, qui est l'identité sonore. Il y a le phrasé, un saxophoniste ou un pianiste, un guitariste. Et puis il y a le sens de l'improvisation. Qu'est-ce qui fait de l'improvisation à partir d'une thématique ou pas? Parce qu'il y a aussi le jazz non idiomatique, c'est-à-dire sans thématique. L'improvisation, ce qu'on appelle l'improvisation libre, totale. Donc voilà, c'est ça qui fait jazz même.
Daniel Humer, que vous avez rencontré, hein, formidable batteur, hein, qui a joué entre autres avec Bud Powell, Jean-Luc Ponty, Kenny Clarke, Grappelli, Dizzy Gillespie, Chet Baker, Rick Dolphy, Bill Evans, etc. Donc Daniel Humer, cité par Francis Montaigne dans le livre, parle du jazz comme d'une conversation improvisée, ce que vous disiez. Il précise, ce n'est pas par la composition, c'est pas la composition qui prime, c'est la jouissance de l'instant, la tension provoquée par la prise de risque. Je joue du jazz, de la batterie ensuite.
Oui, c'est très juste. C'est une très belle définition du jazz. C'est l'instant.
C'est-à-dire, la prise de risque, surtout, ça c'est important.
Et la prise de risque, parce que... Et avec. C'est-à-dire que c'est une musique qui se joue avec et par l'autre. Au sens où l'accord du pianiste va créer la réactivité du batteur. Le bassiste va jouer avec le batteur, et c'est en ça que ça crée une alchimie collective. Et dans les grands moments, il y a ces moments de grâce où les musiciens sont ensemble, parfaitement ensemble, parce qu'ils sont à l'écoute. Et là, on parle de faire société. Je pense que cette musique, elle fait société, parce qu'elle fait communauté d'esprit et d'actes musicaux. Et les musiciens sont nus, ils sont tout nus. C'est-à-dire que un musicien qui fait une faute, ça fait partie du jeu de la musique. En tout cas pour le jazz, c'est une musique à la hauteur de l'homme, c'est une musique humaine. C'est-à-dire que...
Mais c'est pas le récital du pianiste classique.
Mais oui, voilà. froid. Alors après, le pianiste classique, il a quelque chose à jouer dans l'interprétation ou pas. Mais il a une partition. Alors, il peut avoir aussi, et le musicien de jazz, il a une partition intérieure. Et si l'intérieur est fragile, s'il a mal mangé le matin, s'il est énervé, s'il s'est engueulé avec sa femme, ben, ça peut transparaître. C'est en ça qu'on est au plus près de l'homme. Et c'est en ça que cette musique, le jazz, en fait une musique magnifiquement humaine. Ouais.
Jean-Marc Padovani, toujours dans Les mots de la musique, à propos d'Eric Dolphy, bon, un des fondateurs du free jazz avec Ornette Coleman et Don Cherry, parle en jouant d'être out, d'être en dehors, de sortir, de pratiquer les limites extérieures, de longer les frontières, d'emprunter les lignes de crête sur lesquelles on marche, et sur celles-ci, il suffit d'un léger déséquilibre, d'un vent bon ou mauvais pour que la chute soit effective.
Oui, bah c'est in et out. Alors in, c'est que le jazz a des règles, il y a des règles harmoniques et puis il y a des règles rythmiques. On se doit d'être quand même rythmiquement en place. Mais depuis le free jazz, Ornette Coleman, il sort des clous, il sort de l'harmonie dite traditionnelle. Et à partir de là, on peut déployer un autre langage musical, aussi bien harmonique, mélodique que rythmique. Et Eric Dolphy, le passeur, ce qui est magnifique chez lui, c'est qu'il est à la fois issu de la tradition de Charlie Parker, musicien bebop, les créateurs du jazz moderne, et en même temps, il va ailleurs. Voilà, il s'aventure et il joue justement sur cette crête, et c'est ça qui y a une, comment dire, peut-être une tension, et ça crée de la musique qui peut surprendre de prime abord parce que elle sort un peu du chemin, mais ce chemin est beau, quoi.
Et il ajoute, il s'agit de se laisser déborder par son propre jeu. Donc c'est la spontanéité, l'imprévu.
C'est absolument, c'est se surprendre soi-même. Je pense à l'ami Marcel Solal, qui nous a quittés il y a pas longtemps, qui me disait, je lui pose la question, est-ce que vous surprenez parfois, parce qu'il est lancé dans l'improvisation, et puis il y a quand même la mémoire des doigts, on a quand même une culture, et puis on reproduit aussi, comme nous dans le langage, on peut reproduire des gimmicks, ou une certaine pensée, et comment sortir de ce jeu-là. Et oui, parce que il va dans le risque. Alors, ça peut être un risque contrôlé, ça peut être une liberté un peu surveillée, mais il va se risquer à aller ailleurs, vers l'inouï. Oui.
Alors, vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1, en présence de Franck Midioni, pour nous parler de l'ouvrage qu'il a dirigé chez Fayard, qui s'appelle « Les mots de la musique », où il a demandé à 222 écrivains de parler de 222 musiciens du XXe siècle, dans des petits précis d'admiration. Merci beaucoup, Franck, d'être présent ce matin. Alors, il n'y a pas que le jazz, heureusement, dans cet ouvrage d'anthologie. Toute musique semble avoir avec... Alors, quelque part, toutes ces musiques... le jazz et puis les autres, tout ont à voir avec quelque chose qui n'est pas elle, comme on évoquait à l'instant, comme l'imprévu, la spontanéité, le risque, parfois l'erreur, la chute, le silence. Est-ce que c'est ça qui est si difficile à écrire en tant qu'écrivain, parler de cette prise de risque que prend la musique ?
Moi, ce qui m'intéresse quand je lis sur la musique, alors il y a des écritures très, très différentes, c'est quand justement l'écriture se risque aussi à la musique. Alors elle va se risquer surtout par la poésie, j'ai envie de dire. Là, je pense à un autre ami qui nous a quitté récemment, Jacques Reda, poète, il faut lire son livre magnifique « L'improviste, une lecture du jazz ». Alors ce n'est pas une écriture jazz au sens rythmique ou d'improvisation, mais c'est une poésie ou une prose poétique qui travaille la question du jazz. Moi, quand j'écris sur le jazz, ça va être d'un point de vue journalistique, donc c'est quoi ? De l'information, ou bien je vais lâcher la plume avec peut-être du lyrisme, peut-être des images. Ce qui m'intéresse surtout, ce que j'essaye de travailler, c'est ce que j'ai fait un peu avec une biographie de Miles Davis, par exemple, c'est quel est le processus de création. C'est ce qui m'intéresse. J'écoute Miles Davis dans Bitches Brew, qui est une session complètement improvisée. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont les forces en présence ? Et qu'est-ce qui fait que, in fine, c'est ce son, cette imprévisibilité féconde qui a lieu. Voilà, c'est le processus. J'ai envie de savoir, ça me permet de mieux entendre après la musique. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux ? Pourquoi il a fait appel à tel ou tel batteur, tel ou tel bassiste, pour qu'il ait cette patte sonore-là, qu'il ait ce son-là à la fin de l'enregistrement ?
Ça veut dire que ça exige de celui qui écrit sur la musique que lui-même fasse œuvre un peu de création, c'est-à-dire qu'il risque lui-même dans les mots.
Ben, dans le meilleur des cas, oui. Il faudrait que...
Est-ce qu'on sent dans le livre, hein, d'ailleurs, hein.
Oui.
Certains l'ont fait, d'autres pas.
Certains l'ont fait, d'autres pas. Il y a des textes très beaux, littéraires. Il y a un texte très littéraire là, de Christophe Barzac, par exemple, sur Alfred Deller, le chanteur. Le texte est de grande beauté, d'une admiration totale. Et il a mis en œuvre les moyens littéraires pour être à la hauteur. Et ça, c'est magnifique. Hein. Difficile d'écrire sur la musique, oui. C'est quoi sinon, journalistique, on n'a pas besoin de ça. On peut lire une fiche Wikipédia. En revanche, se risquer à une écriture. Je pense aussi, hein, il y a un très beau texte de Raphaël Sarlin sur Noir Désir, où il s'est mis en jeu et il a questionné la musique. Et bravo, respect.
Alors on va faire une première pause musicale. On va écouter Joni Mitchell, Comes Love, que, un morceau que vous avez choisi. Après, vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi ce morceau.
Your rubbers on your feet. Comes a snowstorm, you can get a little heat. Comes love, nothing can be done. Comes a fire, firemen come and rescue you. Blow a tiger, you can patch the inner tube. And comes love, nothing can be done. Don't try hiding, 'cause it isn't any use. You'll just start sliding when your heart. Comes a summons, hide yourself behind the door. Comes love, nothing can be done. What up?
êtes toujours sur Radio Aligre 93.1 en présence de Franck Medioni pour l'ouvrage qu'il a dirigé chez Fayard qui s'intitule « Les mots de la musique » où il a demandé à 222 écrivains de parler de 222 musiciens du XXe siècle. Franck Medioni, pourquoi ce choix, Johnny Mitchell ?
Pourquoi ce choix ? J'ai une passion pour Johnny Mitchell. Alors, Johnny Mitchell qu'on connaît comme chanteuse pop est là. Sur ce disque Both Sides Now, elle est chanteuse de jazz, elle n'a pas une voix de jazz, mais elle a juste une voix merveilleuse, avec l'écrin très subtil des arrangements de Mendoza, avec une équipe de musiciens assez extraordinaire, c'est Peter Erskine à la batterie, c'est au piano Herbie Hancock, c'est sur certains titres Wayne Shorter au saxophone, et c'est une espèce d'état de grâce permanent. Ce disque est un pur chef-d'œuvre, et c'est Eric Dahan qui, dans le livre Les mots de la musique, raconte sa rencontre avec Johnny Mitchell. Donc j'ai une grande tendresse pour ce disque-là.
Alors ça va pouvoir nous permettre d'aborder le sujet du swing, du groove, parce que le jazz c'est aussi ça, hein, c'est le swing, le groove. Question encore importante, en tout cas à mes yeux, comment vous définiriez ça, vous ?
Ah, le swing, qu'est-ce que le swing ? Alors le swing en anglais c'est danser, donc c'est lié à la danse. N'oublions pas que cette musique, le jazz, est au départ une musique de danse, à l'époque, dans les années 20 et 30, de la swing area, les grands orchestres de jazz, qu'ils soient noirs, Duke Ellington, Count Basie, ou blancs, comme ceux de Benny Goodman ou Artie Shaw, étaient là pour faire danser l'Amérique. Et donc c'est la danse, et pour être un peu plus précis, c'est l'idée de pulsation, c'est le 1, c'est le 2, c'est où le beat, c'est le 1, 2, 1, 2. Et donc c'est le ternaire, parce que les musiques rock, c'est plutôt binaire, et musique peut-être plus, entre guillemets, sophistiquée, on va dire, c'est musique ternaire qui se joue effectivement sur la pulse, sur la pulsation, et donc sur cette notion qui est assez indéfinissable quand même.
Oui, c'est quand même assez mystérieux, la définition du groove. Parce qu'un musicien demande qu'est-ce que le groove, il va souvent répondre par quelque chose d'indéfinissable en disant ça vient du corps, ça vient de l'âme.
Oui, on peut le voir comme ça, mais après, en termes plus strictement musical, c'est une pulse. C'est une pulsation.
Alors, ce n'est pas la cadence, le métronome de l'ordi. Ce n'est pas non plus des unités de temps, des intervalles. Emmanuel Véné en parle dans le livre, à propos de Rachmaninoff et de Erik Satie. Il parle de tension de durée valable pour le jazz, évidemment.
Oui.
Le rythme en musique ne renvoie pas au tic-tac de l'horloge, mais au retour de la vague, chaque fois analogue et chaque fois différente.
C'est joliment dit, on parle de tension détente. C'est-à-dire que c'est à la fois une tension, une détente, et qui crée... entre ces deux mouvements, ce double mouvement tension-détente qui crée cette pulsation vraiment très, très spéciale, qui est ce qu'on peut appeler le swing.
Est-ce que le jazz est devenu un peu la musique classique du XXe siècle, avec tout ce que ça a d'académique et d'un peu ennuyeux?
C'est la musique du XXe siècle par définition, parce que c'est la grande création du XXe siècle, la grande création américaine. Il y a le cinéma au XXe siècle, et puis il y a le jazz.
En peinture aussi, il y a quand même des gens au niveau des Américains quand même.
Oui, tout à fait. Oui, absolument. Mais la peinture, elle a existé avant le XXe siècle. Mais je parlais du XXe siècle. Pour le XXe siècle, c'est le cinéma et le jazz. Le jazz, c'est une jeune musique. Hein. C'est un siècle à peu près. Mm-hmm. Elle a connu une histoire avec une évolution très très rapide. Il y a des académismes, oui, il y a des traditionnalismes, il y a en même temps des créativités, il se passe plein de choses. Alors auparavant, il y avait ce qu'on appelait des grands courants, il y a eu chronologiquement la Nouvelle-Orléans, puisque cette musique, le jazz, est née dans le Mississippi, en partie avec des sources différentes, avec des influences différentes. La rencontre de l'Amérique, de l'Afrique par les esclaves aux États-Unis. Et puis n'oublions pas aussi une source très importante, on l'oublie souvent, ce sont les Caraïbes et c'est Cuba, c'est rythmiquement aussi très important, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a la Nouvelle-Orléans, puis il y a la dissémination, cette musique, c'est étonnant, c'est une musique qui devient une musique monde. On aurait pu imaginer comme la musique bretonne qui reste
un folklore
au Mississippi, et elle a fait musique monde. Pourquoi ? Probablement parce que, on en parlait tout à l'heure, parce que c'est musique de l'oralité et c'est une musique de l'improvisation. J'ai entendu à Bangkok, c'est quand même très surprenant, des jazzmen à Bangkok, on joue du jazz, c'est très connu au Japon, donc ça fait musique monde. Après, il y a eu le bebop, qui est dans les années 40 une césure dans l'histoire de cette musique. Hard bop, free jazz, fusion, jazz rock, etc. Donc après, c'est une musique qui épouse toutes les musiques, parce que j'ai écouté du jazz à Rio avec des musiciens brésiliens, avec leur propre tradition musicale. Donc la force de cette musique, c'est de pouvoir épouser le monde. Oui.
Il y a beaucoup d'écrits remarquables hein, dans ce gros livre, on ne peut pas les citer tous. Citons quand même Yves Citon sur John Zorn, Victor Dumiot sur Jacques Brel, Bélina Cannon sur Chet Baker, et surtout Nicolas Chemla sur Little Richard, qui moi m'a beaucoup touché, parce qu'il a fait de la musique les mots en essayant d'être à la hauteur de son idole. Alors ce sont des œuvres d'écriture, hein, et pas seulement des amateurs de musique. Il y a un monk remarquable aussi par Christine Montalbetti. Alors, elle évoque le corps du musicien comme Enzo Carniel sur Bill Evans. Elle parle d'un combat avec la musique, contre la musique trop belle. Une quête épuisante, inquiète, périlleuse. Alors, le corps des musiciens, c'est important en jazz quand même.
Bah le jazz, c'est body and soul, c'est à la fois l'âme et c'est le corps. C'est un engagement total, donc c'est un engagement physique très important. Et c'est intéressant de parler du corps chez Monk, parce qu'il joue très percussif, donc il implique le corps dans la matière sonore et le clavier. Et puis ce qui se passe aussi, vous avez peut-être vu des films, mais c'est très surprenant, c'est quand il se lance dans sa beer dance, dans sa danse de l'ours, c'est-à-dire qu'il se lève et pendant qu'il y a un solo de Charlie Rose au saxophone ténor ou du batteur, il danse autour de lui-même, c'est une danse sphérique et on va dire qu'il rentre en transe. Il est dans le corps de la musique à ce moment-là, son corps devient musique.
Alors, le corps des musiciens, très important en jazz, corps réel, présent, incarné, vous venez de le dire, mais aussi de la pensée en acte. Christine Montalbetti parle aussi de John Cage, de son fameux 4 minutes 33. Donc, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est quand même 4 minutes 33 de silence, c'est un peu l'équivalent du carré blanc sur fond blanc de Malevich, qui a été une formidable excitation pour elle, hein, une formidable excitation intellectuelle, un enchantement qui réouvrait les oreilles autrement et la pensée. Donc vous l'avez dit, c'est le corps, mais c'est aussi l'esprit.
C'est aussi l'esprit, oui, c'est la construction, c'est l'architecture. Quand c'est le jazz, c'est l'instantanéité d'être au plus près de la musique et de son confrère, compère, voisin, musicien, et d'être en présence. Je crois que c'est la présence. Quand c'est une musique écrite, je ne sais pas si c'est Shostakovich ou Prokofiev, C'est l'architecture, c'est la création spirituelle, c'est la mise en œuvre d'une construction. Moi, je suis aussi bien fasciné par une sonate de Boulez qui est d'une extrême précision, où il n'y a pas rien n'est laissé au hasard forcément, que par une improvisation de Cécile Taylor au piano, qui déploie une énergie, mais qui déploie une énergie et qui crée une architecture sur l'instant. C'est-à-dire qu'elle met en œuvre le corps, elle met en œuvre l'esprit, mais il y a l'énergie de l'instant, de l'improvisation, ce que je fais là en parlant. Donc je pense et je dis en même temps, le musicien, Cécile Taylor ou Thelonious Monk au piano, il est à la fois dans la construction et dans l'interprétation en direct. Moi, ça c'est fascinant.
Philippe Venturini cite Gould, hein, à propos de Bach, évidemment, le grand interprète de Bach, il dit « Les mains sont le prolongement de la pensée ».
Oui, c'est ce que disait Gould, on ne joue pas du piano avec ses mains, on joue du piano avec sa tête, forcément. C'est la tête qui guide ses mains. Et c'est ce que disait Marcel Solal aussi, il dit « On a la technique de ses idées ». Je pense que l'intelligence est en mouvement, donc ça se travaille. Vous allez me dire, une technique, ça se travaille. Un pianiste, il doit faire ses arpèges, il doit travailler sa technique, sa précision rythmique. Mais un pianiste qui sera, excusez-moi de le dire, un peu bête, j'ai envie de dire que ça peut s'entendre très fort des fois.
Donc la musique est corporelle, émotionnelle, sensitive, mais aussi consciente, pensive, spirituelle. On retrouve beaucoup ça dans les témoignages de musiciens. Il y a toujours une forme de rapport à la transcendance. Mais même chez les athées, je veux dire, les musiciens.
Oui, tout à fait, parce que soit il y a la transcendance religieuse, confère Jean-Sébastien Bach, qui compose, qui fait de la musique pour Dieu et par Dieu, traversé par Dieu. Je pense à John Coltrane avec A Love Supreme, qui est un hymne à Dieu, qui est un acte de foi magnifique. Et puis, pour ceux qui ne sont pas dans cet espace religieux, il y a la transcendance de l'instant. Je pense à ces propos du chanteur Nick Cave qui dit qu'aujourd'hui, je pense donc que c'est très fort, je ne pense pas qu'il soit religieux, mais on peut être mystique sans être religieux, n'est-ce pas, que la musique est aujourd'hui certainement un espace de liberté très fort, mais un des seuls moyens de transcendance.
Pour lui, c'est le dernier lieu.
Le dernier lieu de transcendance, ouais. Absolument. Ouais.
Alors, on va écouter le second morceau que vous avez choisi en pause musicale, et après, vous allez nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix. Thank you. Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 en présence de Franck Midioni qui vient nous parler de son ouvrage qu'il a dirigé chez Fayard qui s'intitule Les mots de la musique, 222 musiciens racontés par 222 écrivains. Franck Midioni, pourquoi ce morceau Saint Thomas ?
C'est pas parce que mon fils s'appelle Thomas, c'est parce que c'est une composition de Sonny Rollins, saxophone ténor. Et dans ce livre collectif, j'ai commis un texte sur Sonny Rollins qui a pour titre Sonny Rollins, le colosse du saxophone, en référence à Saxophone Colossus, qui est un titre de son album. J'ai, comme beaucoup d'amateurs de jazz, une grande admiration, une grande passion pour Rollins. Dans les années 50, il y a plusieurs saxophonistes. Je pense aussi, je le dis parce que je suis actuellement en train de l'écouter en long, en large et en travers. Et si un auditeur, grâce à moi, pourra le découvrir aujourd'hui, j'aurais bien fait. C'est Joe Henderson, H-E-N-D-E-R-S-O-N, ami auditeur. Écoutez Joe Henderson. Mais donc, la parenthèse fermée, il y a deux maîtres du saxophone dans les années 50-60. Ce sont John Coltrane et puis c'est Sonny Rollins que l'on a parfois opposés alors qu'ils étaient amis, vraiment amis. Sonny Rollins me l'a dit. J'ai eu la chance de l'interviewer plusieurs fois, j'ai eu la chance de le rencontrer à Évian, au Palace Hôtel d'Évian, et c'est la rencontre que je relate dans ce texte pour le livre collectif.
Alors, Saint Thomas, c'est l'apôtre qui doute, c'est celui qui a besoin de voir pour croire. Hein. Est-ce que la musique, c'est ça, c'est un peu ce pouvoir de montrer, de rendre visible l'invisible ?
Oui, c'est dire c'est l'ineffable. Oui, le silence est l'ineffable. Ça participe de.
C'est un grand paradoxe. La musique, en fait, doit rendre compte du silence.
Ou en faire écho, ou sculpter. Moi, quand j'écoute Thelonious Monk, je l'entends comme un sculpteur de silence. Steve Reich ou Morton Feldman travaillent avec ça. Ce sont les creux et les pleins. Puis après, c'est la question du langage. Voilà. Qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qu'on dit, etc.
Alors, voix du corps, on l'a dit, voix de l'esprit, on l'a évoqué, voix mystique, mais aussi voix d'un peuple, vous en avez parlé au tout début de l'interview, voix d'un peuple noir, hein, afro-américain, avec toute sa dimension politique, hein, l'esclavage, l'apartheid, la colonisation. Il y a un bel écrit de Christiane Taubira hein, dans le livre sur Myriam Mbabeka, qui est une musicienne d'Afrique du Sud, naturalisée guinéenne. Il faut rappeler que Christiane Taubira, c'est elle qui a inscrit l'esclavage comme crime de l'humanité. Et elle parle du chant des optimistes obstinés.
Oui, c'est une belle définition. Elle a écrit ce texte sur cette musicienne chanteuse, Myriam Makeba, d'Afrique du Sud, qui a connu donc l'apartheid et pour qui le chant, la musique était porte-voix et était des chants de libération. Donc c'est très fort et c'est un très joli texte de Christiane Taubira.
Derrida avait écrit de la vérité en peinture. Est-ce qu'il y a de la vérité en musique ? Laurent Selmès, toujours dans votre livre, à propos d'Art Pepper, dit « Art Pepper ne cherche pas à être authentique, mais à être vrai ».
Oui, c'est d'être soi. Dans la vérité de l'instant, je pense que c'est le propre de l'artiste, du musicien, du peintre, quand il est, ou de l'écrivain, quand il est face à son ordinateur ou à sa page blanche. C'est un moment de vérité. Oui.
Est-ce que ça a à voir avec l'innocence retrouvée, hein, comme cite Baudelaire, hein, le génie n'est que l'enfance retrouvée à volonté. Il y a un très bel écrit de Richard Robert sur Robert Wyatt. Cette inimitable voix d'enfant centenaire.
Oui, c'est une jolie idée, ça. Mais c'est ce que disait aussi dans mes souvenirs, Picasso, quand il disait que, en parlant, oui, de l'enfance de l'art, c'est-à-dire d'invoquer l'enfance et la créativité et de l'enfant. Et là, ça nous ramène aussi au jeu. J-E-U et J-E aussi. Et le jeu, on joue de la musique. Et il y a du ludisme. C'est ça qui est en jeu, précisément.
Toujours à propos de Robert Wyatt, il continue. Cet homme fragile mais entier, et fragile parce que entier, si droit et si honnête, qu'il ne se cache rien de ce qui, dans sa droiture et son honnêteté, ne cesse de trembler. Il ajoute, il précise, en citant Yankelevitch, auquel il le compare, hein, « L'innocence ne s'obtient pas par l'exercice, l'apprentissage, l'entraînement. C'est un état éphémère qui, à l'instant même où il prend conscience de lui-même, s'écrase en complaisance. »
Oui, c'est joliment dit. C'est l'instant de vérité, je pense, de l'acte avec ce qu'on est sur cet instant-là qui est non reproductible. Oui.
Comme un état souverain d'innocence.
Oui, c'est ça. Oui. Oui, alors après, on peut invoquer parfois des termes religieux quand on parle de grâce. Mais il y a cet instant-là de, oui, cet instant de vérité, quel qu'il soit. D'ailleurs, moi je sais que je vais régulièrement au concert de jazz. C'est quoi un bon concert de jazz qui m'a fait vibrer, qui m'a bouleversé, qui m'a ému? Parfois, il suffit qu'il y ait un beau saut de batterie qui me transporte et ça me suffit, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de musique. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, on n'est pas toujours très intelligent, on n'est pas toujours brillant, on n'est pas toujours au plus haut de la vague. Donc juste soyons en simplicité nous-mêmes et puis faisons ce qu'on peut, mais ça peut être très simple et très...
Alors c'est étonnant, venant de la part d'un spécialiste du jazz, journaliste, critique, auteur, écrivain, de se mettre dans cette situation presque de se désarmer pour pouvoir mieux écouter les gens. C'est assez rare. Normalement, on arrive avec un œil critique ou une oreille un peu d'analyste. Et donc, en fait, si on veut vraiment saisir la musique, quand bien même on serait un grand journaliste, un grand écrivain, il y a toujours ce moment où on se démunit pour pouvoir accueillir la musique.
Oui, c'est bien d'être un peu innocent, comme si c'était la première fois. Je vais voir un tableau... Les nymphéas de Monet, j'ai ça déjà dans l'œil. Essayer de le voir pour la première fois et de voir, voilà, de voir ce qui peut se déployer. Alors après, c'est vrai que j'ai beaucoup de références, je connais bien cette musique, donc il y a forcément de l'analyse qui rentre en jeu. Je vais voir le batteur qui n'est pas dans le temps, je vais me rendre compte que le pianiste il vient de faire une fausse note, je vais me rendre compte... Mais j'ai envie de dire, et alors, on en parlait tout à l'heure, c'est une musique humaine, elle est comme ça, et puis même c'est ce que disait Miles Davis, il n'y a pas de fausses notes, il y a des notes qui aussi produisent de la musique. Alors après, s'il n'y a que des fausses notes, ça peut devenir problématique. là, je serais peut-être plus au bar ou dehors. Il y aura peut-être
des... Mais je pense à ces enregistrements de jazz à l'époque où il n'y avait pas les logiciels pour corriger le son, où on le plaçait à les pains ou les fausses notes, et on les gardait, on les laissait. Et ça ajoutait un charme supplémentaire. Mais parfois, même, ça donnait toute l'émotion à un moment.
Oui, absolument. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Et puis, je me répète, la fausse note crée de la musique. Elle crée une tension. C'est ce que me disait Marcel Solal. Quand il fait une fausse note, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il la reproduit, parce qu'on, comme ça, on pense qu'il l'a fait à bon escient.
Oui, il se rattrape.
Il se rattrape. Mais à partir de là, ça va créer de la musique, parce qu'à partir de là, il va aller ailleurs.
Voilà.
Donc, ça produit quand même quelque chose. Donc, en ça, c'est intéressant.
Alors, pas d'artistes de variété, ou très peu, dans ce monumental ouvrage. Il y a juste Franz Gall et Whitney Houston. Comment vous définiriez la variété ?
ce qui est varié.
Tautologie, donc.
Oui, non, là, je ne sais pas.
Alors, par rapport au jazz, par exemple.
Par rapport au jazz, non, il y a des musiques plus faciles que d'autres. Il y a des musiques plus compliquées que d'autres. Il y a une définition assez amusante de la musique par Pierre Boulez. Il y a deux sortes de musiques. Il y a celle qui coûte et il y a celle qui gagne. Bon, autre définition, elle est un peu simple, elle fonctionne bien, celle de Duke Ellington, il y a la bonne et la mauvaise musique. Bon, ça ne fait pas vraiment avancer le Schmilblick.
Mm-hmm. On pourrait ajouter, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise musique, il n'y a que des mauvais musiciens.
Oui, par exemple, peut être ça, bon. Ça peut être ça. C'est vrai que des fois, dans un supermarché, encore qu'on peut écouter des fois les Doors. Dans un supermarché ou dans un ascenseur, les musiques d'ascenseur sont purement fonctionnelles.
Brian Eno a composé une musique pour un aéroport.
Absolument.
Qui n'a jamais été jouée dans aucun aéroport.
Oui, qui est très belle.
Pas fonctionnelle du tout.
Très belle musique. Oui, oui, tous les sons. Il n'y a pas de. C'est ce que disait. C'est ce que disait John Cage, il n'y a pas un son supérieur à un autre. Après, il y a qu'est-ce que l'on fait de ces sons, comment on les agence. La musique, c'est quoi? C'est un agencement de sons. Ce sont des sons tapissés, mis ensemble, en tension. On l'a dit en début d'émission, je ne fais pas de hiérarchie entre les musiques, même si je considère que la musique de jazz est la meilleure. Je plaisante. Mais il y a plein de belles musiques.
On a quand même l'impression que les artistes de variété, parce que je suis d'accord avec vous, évidemment, et cette hiérarchie entre musiques est tombée depuis longtemps, en tout cas pour les musiciens et les musicologues et les journalistes, même si dans le public, ils maintiennent encore ces hiérarchies. Mais la variété... par son nom même, ne se définit pas, refuse d'être dans un style ou un autre.
On dit musique variée ou musique avariée.
Voilà. Et c'est surtout une musique qui profite des autres musiques. C'est-à-dire que c'est une musique faite à partir de la musique qui a déjà fonctionné, qui a déjà marché. Donc c'est un peu l'utilisation des recettes.
C'est un peu des recettes. Et puis on peut considérer que c'est une musique qui n'est pas faite pour faire de la musique, qui est faite pour l'auditeur. Je m'explique. Thelonious Monk, quand il compose, ce n'est pas pour séduire l'auditeur. Il ne pense pas à composer Around Midnight pour gagner de l'argent. En revanche, un musicien ou une musicienne de variété, je dis ça et ce n'est pas une péjoration, moi je respecte les uns et les autres, va produire une musique pour
un certain format. Déjà.
Un format, et puis pour plaire,
ouais. et pour
vendre, c'est quand même le but du jeu. Un musicien de jazz, il a aussi envie d'être écouté, il a peut-être aussi envie de gagner de l'argent, mais je pense que ce qui l'anime au départ, je l'espère en tout cas, c'est sa création.
Alors on parle dans ce livre des musiciens du XXe siècle, donc c'est les musiciens de la radio, du vinyle, des places de concert abordables. Là on est au XXIe siècle, c'est le streaming, c'est la musique partout, tout le temps. Des places de concert qui sont à des prix totalement délirants. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans votre perception de la musique, Franck Medioni?
C'est la consommation de la musique, c'est-à-dire que quand j'étais adolescent, j'achetais un disque par semaine et ce disque-là, je l'écoutais 20 fois, j'écoutais 30 fois, certains, je les connais par cœur. Donc j'avais un rapport très fort à la musique et aussi à la matière musique qui était le disque. Et depuis que c'est dématérialisé, forcément, on a accès à toute la musique. Donc, le risque, c'est d'être dans la posture du consommateur, c'est-à-dire qui picore, qui mange, qui digère et il ne se passe rien.
La musique Kleenex aussi, la musique qu'on jette.
C'est ça. Alors que musique, je sais que hier, j'écoutais les sonates de Beethoven par Brendel. Cette musique-là vit encore en moi aujourd'hui. Et sur l'instant, je l'ai consommée, mais elle vibre encore, elle vit encore. Donc c'est peut-être une autre façon de vivre la musique. Ce qui m'embête un peu, c'est le côté Kleenex, le côté zapping. On passe de l'un à l'autre très facilement et on ne s'engage pas. Quand je parle d'engagement, c'est qu'il y ait une écoute active et qu'on fasse un vrai choix. Voilà, quand on achète un disque, on achète celui-là, on donne de sa personne, on donne de ses sous et on s'implique vraiment. Alors que maintenant, c'est parfois un peu léger, c'est du son. Et même certains ne s'intéressent pas à qui il y a derrière, au moins le nom du musicien, une œuvre. Voilà, savoir un peu qui est le créateur, qui est l'architecte de cette composition. Donc c'est parfois un peu anonyme et trop, j'ai envie de dire, un spectacle ou consommation.
Alors, on en a parlé tout à l'heure, en fait, le jazz est très vivant actuellement. Il y a une scène en Angleterre qui est très vivace. Il y a une scène à Los Angeles, notamment avec Kamasi Washington ou avec Makaya McCraven, qui est très, très vivante, en France aussi. Donc, il semble que moi, je vais, comment dire... Parfois, à la Gare aux Gores, il y a une nouvelle scène et il y a plein de jeunes qui viennent. C'est ça qui est dedans. Merci beaucoup, Franck Medioni, d'être venu dans notre émission.
Merci à vous.
On va remercier très chaleureusement et très activement Lucas Penture et Bruno Mande pour avoir assuré le son derrière la vitre. Et merci beaucoup, Yves, de nous avoir reçus dans votre émission.
Revenez quand vous voulez. Bonne journée et à bientôt.
Merci.
Écoutez Aligre FM 93.1.